Merci. Merci à Jordana et Mathias pour la louange. Ma prière est que nous ayons pu tous chanter ce dernier chant avec un cœur sincère, tellement ces paroles sont profondes. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence, ô Jésus. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Que ce soit notre attente pour accueillir la parole dans un bon terrain. Je vais vous partager un texte très connu. C'est pourquoi cette prière est d'autant plus importante, pour qu'on ne reste pas figé dans ce que l'on sait, de ce que l'on connaît, mais qu'on puisse entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin. Lorsque Werner Lehmann est venu, il nous a encouragés à une foi active qui proclame une parole et celle-ci manifeste son effet par la puissance de Dieu. C'est comme semer des graines. Pierre-André Rapin, il y a 15 jours, développait la croissance de l'homme nouveau qui se renouvelle dans un processus continu. Car c'est bien l'intention de Dieu de renouveler notre être intérieur. On a chanté être transformé de gloire en gloire par sa présence. C'est la croissance de cette semence. Alors ce matin, je vais rester dans la dynamique de la mise en pratique de la parole afin qu'elle porte du fruit dans nos vies. Et pour cela, je vais reprendre la parabole du semeur que Jésus a utilisée, pour illustrer les obstacles et les situations qui empêchent la parole de produire du fruit. Écoutons-la de la voix de Jésus. Comme si nous étions les premiers auditeurs au bord du lac de Génézareth, sur cette colline où Jésus prêchait avec une foule rassemblée. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules s'assemblèrent auprès de lui et il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait : Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain cent, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà. Si nous avions été les auditeurs dans cette foule, qu'aurions-nous compris ? La logique agricole est bien respectée. Le bord du chemin ne laisse aucune chance à la graine de germer. Un terrain caillouteux est trop superficiel. Il manque de réserve. La semence germe, mais elle sèche, faute de racines. Le terrain avec les épines ou avec de la mauvaise herbe génère trop de concurrence. Et la croissance est affaiblie jusqu'à l'étouffement. Les photos que j'ai prises là, c'est ma pépinière. Celle de gauche, le liseron est venu envahir, surmonter les plants de vigne, on ne les voit plus. Je donne pas cher de la qualité de ces plants. Au triage, je pense que j'en aurais pas une de bonne là-dedans. Alors que de l'autre côté, elles sont quand même bien plus jolies et j'attends une jolie réussite. Enfin, seul le bon terrain donne du fruit. Lorsque Jésus quitte la foule en les invitant à être attentifs à ce qu'ils ont entendu, tous ont pour le moins compris qu'une production agricole rentable dépend du terrain et qu'à défaut d'une bonne terre, il est inutile de jeter sa graine. Celle-ci ne parviendra pas aux fruits attendus, même si le rendement peut varier d'un épi à l'autre. C'est en tout cas la première des choses qui vient à notre esprit. Ou alors, il est nécessaire de faire le fastidieux travail d'enlever les cailloux et les mauvaises herbes pour donner une chance à la semence de porter du fruit. Mais est-ce là tout ce qu'il fallait comprendre? Nous lisons la suite dans les versets 10 à 15 de Matthieu 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. En entendant cette parole, et en particulier le verset 15, j'ai été interpellé. Je le relis. De peur, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Qu'en est-il dans notre génération? Ne sont-ils pas nombreux ceux qui sont privés de conversion et de guérison à cause de l'endurcissement de leur cœur? Mais tout d'abord, les disciples s'interrogent, eux aussi, pour savoir le sens de cette parabole et la raison pourquoi Jésus ne leur parle pas un langage clair. Et de sa réponse, on peut être heurté par cette différenciation, cette réalité qu'à certains il est donné de comprendre et pas à d'autres. Est-ce que c'est arbitraire? Est-ce valable que pour cette génération qui voit la prophétie d'Ésaïe s'accomplir pour eux? Ou est-ce un principe général? Alors, il est certain que le rejet que Jésus subit est dans l'ordre du plan de Dieu, afin d'amener Jésus au sacrifice de la croix. Mais la raison de ce rejet vient de l'endurcissement du cœur, de leurs oreilles et de leurs yeux qui deviennent insensibles et les privent de la conversion et de la guérison. Et ce principe-là, il est probablement durable, pas que pour cette génération. Alors, au fond, à qui donc a-t-il été donné de connaître les mystères du royaume qui restent cachés aux autres? N'est-ce pas aux disciples? Et en fait, qui est un disciple? N'est-ce pas celui qui a accepté la lumière de Jésus en le reconnaissant non pas seulement comme un homme de bien ou un maître à penser, un philosophe de bonne valeur, mais en le reconnaissant comme le Verbe de Dieu, le Messie qui accomplit pleinement le rôle de prophète, porte-parole de Dieu, le rôle de sacrificateur, l'intermédiaire qui rend le pardon effectif, et le rôle de roi, chef, qui gouverne et conduit. Car c'est lui qui nous introduit dans une nouvelle alliance, avec Dieu. C'est Jésus qui est celui dont la parole vient directement de Dieu. Et il dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on a conscience de cela lorsque l'on écoute la voix de Jésus? Le disciple est donc entré dans une alliance avec Jésus et reçoit une capacité supplémentaire de recevoir la révélation du royaume de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus explique le sens de sa parabole aux disciples. On va lire les versets suivants où Jésus explique cette parabole. Et on poursuivra par un petit instant de silence pour laisser l'Esprit parler à vos cœurs et que vous puissiez écouter cette parole comme tout à nouveau pour vous ce matin. Les versets 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Dans son explication, le sol correspond au cœur humain et à sa réceptivité devant la parole. L'esprit me révèle-t-il une correspondance avec mon cœur? Le premier terrain révèle le cœur endurci de celui pour qui la parole n'est pas comprise ni reçue par l'auditeur. Et là, un acteur tiers, le malin, intervient alors pour enlever ce qui a été donné. Le second terrain, les endroits pierreux et sans fond, illustre le cœur de celui qui reçoit l'Évangile avec joie. Le pardon et les bienfaits du Seigneur sont accueillis sans réserve, mais dès que survient l'opposition, le rejet ou une tribulation, pour reprendre le mot biblique, une quelconque difficulté, alors l'auditeur manque de persévérance et de racines et abandonne son engagement à suivre le Christ. Le troisième sol, envahi d'épines, est un cœur qui fait face à la concurrence du monde. Dans l'évangile de Luc, trois choses sont citées. Les soucis du monde. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, les soucis du monde? Ou les soucis. C'est parfois difficile de s'en débarrasser. Ça me rappelle un épisode que j'ai vécu, enfin une leçon de choses. J'avais dans ma haie une ronce qui avait poussé. Alors quand on taillait la haie une fois par année, ça l'éliminait plus ou moins. Mais d'avoir pris du retard, elle s'était implantée dans le talus parce que la ronce, elle se propage par le bout de sa tige qui reprend dans la terre. Alors de m'en être pas occupé rapidement, elle avait fait son chemin et finalement envahi tout le talus. Et je ne vous explique pas la difficulté et le travail qu'il a fallu quand je me suis enfin décidé à me débarrasser de ces ronces. Lorsqu'un homme laisse envahir son cœur par les soucis, Non seulement ils étouffent la parole de Dieu en ratatinant la foi et la confiance dans la puissance de la parole de Dieu, mais en plus, cette attitude déshonore Dieu qui ne cesse de rappeler de nous inquiéter de rien. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas entendre ici de rester indifférent et négligent quant à nos responsabilités dans le monde. Un autre point qui est cité, la séduction des richesses. Vaste domaine qui touche à notre niveau de vie, notre confort, notre habillement, etc. L'emploi de nos finances, notre sécurité, notre acharnement au gain, et qui flatte l'orgueil. Sommes-nous confrontés à une concurrence entre la gestion de ces domaines et notre appel envers le royaume? Le troisième point, c'est les plaisirs de la vie. Alors, c'est sûr que la compréhension de ce danger au cours des siècles a fortement varié, laissant certains chrétiens prôner l'ascétisme, la rigueur absolue envers toutes sortes de formes, toute forme de jouissance ou de vie abondante pour fuir un pareil danger. Mais dans notre société actuelle, autant que dans celle de Jésus, cette tentation est capable de nous détourner du cœur de Dieu en flattant l'égoïsme. La publicité et la fuite en avant de notre société est fondée sur le plaisir de la vie. Je pense pour ma part que le disciple qui reste attentif à la voix de son Dieu dans sa conscience saura discerner lorsqu'il cherche Dieu qui lui accorde du plaisir dans la vie ou s'il cherche le plaisir qui peut le détourner du cœur de Dieu. Mais c'est assez évident que ce danger est très sournois dans notre société. Ainsi donc, trois adversaires sont actifs pour saper la portée bénéfique de l'Évangile. Le diable, figuré par les oiseaux, la chair, ou notre nature humaine naturelle, qui ne résiste pas au soleil brûlant de l'épreuve ou de la persécution, et le monde, figuré par les épines, qui séduit, fait concurrence et étouffe le fruit que devrait porter la parole. Reste enfin le bon terrain, celui qui permet la croissance jusqu'au fruit. C'est le cœur qui entend, qui comprend, qui prend au sérieux le message, qui persévère et développe un véritable caractère chrétien en portant du fruit pour Dieu. Luc, dans son évangile, ajoute deux qualificatifs à ce descriptif. Le verset cité là, je le lis. Luc 8, verset 15. Celui qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Un cœur bon et honnête. C'est une incroyable clé pour rendre un cœur fertile que les qualités d'honnête et de bon. Notre expérience d'ailleurs le montre bien. Celui qui est riche d'honnêteté et de bonté est plus réceptif à la parole de Dieu et plein de foi pour voir produire du fruit. Et à contrario, lorsqu'on s'éloigne de ces qualités, on perd la capacité à être sensible à la voix de Dieu. Apprenons aussi à reconnaître ces qualités parmi notre entourage pour discerner les cœurs qui seront ouverts à recevoir une parole venant de Dieu. Mais au fait, quel est le fruit auquel Jésus fait allusion? Bien des commentateurs parlent des 30, 60 ou 100 grains par épi comme de la multiplication des conversions suite à la prédication de l'Évangile. Mais dans ce contexte, on peut penser à la formation du caractère du disciple, c'est-à-dire de la croissance de l'homme nouveau à la ressemblance du Christ, qui rejaillit dans nos vies et de nos vies sur celles de nos prochains. Mais on peut aussi penser à l'accomplissement général du verset d'Ésaïe 55:11, quand Dieu dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Avant de conclure, deux encouragements. S'il est bien présenté quatre situations dont une seule porte du fruit, cela ne veut pas dire que seuls 25% des cœurs vont porter du fruit. Car les champs fertiles peuvent être bien plus nombreux et bien plus grands que les autres zones. Et puis, deuxième encouragement, il faut savoir qu'il n'y a pas d'agriculteur qui n'y ait enlevé de pierres dans son champ, ni arraché des ronces pour le rendre plus productif. Michel et les autres, vous pourrez confirmer ça. Il en est de même de nos cœurs. Le changement est toujours à notre portée. J'en arrive à ma conclusion. Voilà la parole qui retentit ce matin au milieu de nous, venant de Jésus. Elle ne nous condamne pas, mais elle est pleine de grâce pour fortifier notre foi dans la puissance de cette semence qui veut porter du fruit. Et pourtant, il est possible que cette parole laisse quelqu'un d'indifférent, ou alors que la repentance qu'elle suggère semble trop contraignante ou impossible. Qu'une telle personne s'interroge sincèrement pour savoir qui est Jésus pour lui et quel est l'état de sa relation avec lui. Quel crédit accordons-nous à ses promesses et à son autorité? Si pour d'autres cette parole interpelle, si le Saint-Esprit révèle de quel terrain est formé notre cœur, alors reconnaissons l'autorité de celui qui parle à nos cœurs. Et fort de sa bienveillance et de sa puissance, attachons-nous à réformer, corriger et ameublir ce qui doit l'être pour que notre vie soit fructueuse pour le royaume. Car un cœur honnête et bon est garant d'un terreau fertile. Travailler nos cœurs pour le libérer de la superficialité, des concurrences du monde ou des penchants de notre nature humaine, ce n'est pas le rendre vide et insipide. Car le bon terrain, ce n'est pas un terrain vide et nu, mais c'est un cœur habité par l'amour de Dieu et sa parole puissante, arrosée par sa grâce qui exprime sa fertilité en harmonie avec le Créateur. Ça a de la richesse et de la valeur aussi. Qu'il en soit ainsi dans nos cœurs. Et puis, encore une chose. Personnellement, j'ai été longtemps conditionné par le raisonnement que dans le résultat de 30, 60 ou 100 grains, le mieux c'était quand même 100. Et que Dieu devait certainement préférer nous voir porter 100 grains que 30. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Mais j'ai été touché vendredi en lisant au hasard deux pages d'un livre et j'y ai reçu la grâce de Dieu qui se réjouit tellement de nous voir porter du fruit selon la capacité qu'il nous a accordée et que finalement, lorsque Jésus dit 30, 60 ou 100, c'est pour mettre en évidence qu'il ne nous met pas dans un moule uniforme, mais qu'il laisse à chacun de nous exprimer l'unicité de la manière dont il nous a créés. Amen.